Palabre, en forêt.
L'émission qui va à la rencontre des actrices
et des acteurs de nos forêts cévenoles,
du Gard et de la Lozère.
Avec une rubrique découverte des richesses sauvages des forêts cévenoles et parfois des forêts francophones du monde.
Sur Radio Bartas.
Sans cet effet.
Et bonjour chers auditeurs et auditrices de Radio Bartas. On est aujourd'hui dans Palabre en forêt. On se retrouve avec Virginie.
Bonjour.
Et Aymeric.
Bonjour.
Et aujourd'hui, on reçoit Valère Marceaudon. Salut Valère.
Salut.
Alors Valère, tu es responsable d'unité territoriale à l'ONF, d'un secteur qui se trouve sur l'Égoual côté du Gard. Et tu es aussi coordinateur de la labellisation forêt d'exception, donc la forêt d'exception de l'Égoual. Alors aujourd'hui, on t'a invité pour que tu nous parles un petit peu de cette forêt d'exception, pour comprendre ce que c'est. Est-ce que, du coup, tu veux compléter un peu la manière dont on t'a présenté? Est-ce que tu as des choses à rajouter sur, que tu sois donc responsable d'unité territoriale et coordinateur de la forêt d'exception?
Non, c'est très bien. Ouais, sachant que la forêt d'exception, du coup, elle est à la fois sur le Gard et la Lozère. C'est vraiment tout le massif de l'Égoual.
Et alors, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est la forêt d'exception?
Alors, forêt d'exception, c'est un label qui est décerné au niveau national, un certain nombre, 16 je crois, forêts au niveau national qui sont emblématiques, alors pour différentes raisons, certaines pour des raisons historiques, comme, je pense à Verdun par exemple, d'autres parce qu'elles sont très connues et très fréquentées, comme Fontainebleau aux portes de Paris, ou bien dans un autre style, les forêts du bassin d'Arcachon. Et puis, des forêts aussi qui sont très connues pour leur bois, la qualité de leur bois, de chêne notamment, avec Bercé et Troncé par exemple. Et puis un certain nombre de forêts, entre autres en moyenne montagne, dont l'Égoual. Et l'Égoual en fait partie parce que, en particulier, la forêt actuelle est issue d'un grand programme de reboisement qui a été mené à la fin du 19e et au début du 20e siècle et qui est assez emblématique et exemplaire de ce qu'a pu se faire en termes de restauration des terrains de montagne, quoi. C'est-à-dire on avait un paysage complètement nu au milieu du 19e siècle, et avec les efforts et les travaux des services forestiers, la forêt a repris ses droits et a reconquis l'espace à ce moment-là.
Et pourquoi elle a été jugée exceptionnelle à l'heure actuelle ?
Elle a été jugée exceptionnelle par cette histoire. C'est une forêt qui est aussi très particulière en termes de diversité d'altitude, en termes de diversité géologique. C'est aussi un milieu d'un point de vue météo qui est vraiment contrasté, extrême. On part de l'étage méditerranéen vraiment en bas dans les vallées. Côté sud notamment, et puis on arrive jusqu'au sommet de l'Égoual où on a une pelouse subalpine, quoi. Donc ce qui fait qu'en fait cette diversité de milieux, d'ambiance climatique, etc., fait que aussi on a une diversité en termes de biodiversité, c'est ce qui justifie aussi le fait que quasiment l'ensemble soit présent au cœur du parc national des Cévennes. Donc c'est plusieurs choses en fait, à la fois l'histoire, la diversité, etc., qui font qu'elle a un caractère exceptionnel. Ouais.
Et alors cette labellisation, elle sert à quoi? C'est une reconnaissance de ce passif forestier, donc on reconnaît au niveau national qu'il est exceptionnel, c'est ça? Et est-ce que ça apporte des choses du coup pour la gestion de cette forêt?
Alors c'est une reconnaissance, comme tout label en fait, c'est une reconnaissance. Alors à la fois d'un lieu, d'un site, d'un massif forestier, et c'est aussi la reconnaissance d'une démarche de territoire, puisque ce qui est un peu particulier, c'est que d'habitude quand l'ONF gère des massifs forestiers, on a nos propres outils, on va dire en interne, notamment avec les plans de gestion forestiers, les aménagements forestiers, qu'on applique sur 15 ans, sur 20 ans, etc. Et là, ce qui est particulier avec Forêt d'Exception, c'est qu'on a mis en place un comité de pilotage avec tous les acteurs du territoire, Qu'on travaille ensemble à construire un programme d'action. Alors le programme d'action, ça va être assez varié. Ça va être des actions autour de l'accueil du public en forêt, de la valorisation des patrimoines, que ce soit des patrimoines, je sais pas, architecturaux par exemple, enfin ou culturels, ou aussi des patrimoines écologiques. Et puis de la communication aussi, de la communication sur, en particulier, expliquer. Ce qu'est la gestion forestière, comment ça marche, comment on s'en débrouille, quoi, et comment on arrive à finalement gérer un grand massif forestier comme ça, et aujourd'hui en se posant pas mal de questions aussi par rapport au changement climatique et à l'adaptation de notre gestion par rapport à ces enjeux climatiques qui sont très importants et très marqués sur les Cévennes.
Et du coup, la labellisation, elle est coordonnée, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais par l'Office national des forêts. Et du coup, tu disais qu'il y avait des partenaires qui étaient associés à cette labellisation. Est-ce que tu peux nous en citer un peu quelques-uns, peut-être les principaux ?
Les partenaires, c'est... Alors bon, évidemment, il y a les services de l'État, il y a les collectivités qui sont très présentes, que ce soit donc les communes, toutes les communes du territoire, les communautés de communes, et puis... depuis qu'ils existent aussi les PETR, les pôles d'équilibre des territoires ruraux, qui sont porteurs des chartes forestières de territoire. Il y a évidemment tous les acteurs du tourisme, comme les offices de tourisme, par exemple. Il y a d'autres acteurs, les fédérations de chasseurs, le parc national des Cévennes. Évidemment, quand on fait une liste comme ça, on en oublie, mais on essaye d'avoir tous les acteurs qui sont impliqués de près ou de loin dans la gestion et du massif, ouais.
Et alors, je crois savoir aussi que par rapport à l'accessibilité, tu as parlé aussi, il y a la gestion forestière, mais il y a l'accueil en forêt également. Et l'accessibilité, je crois que vous avez fait un effort particulier pour rendre accessible à tout public par certains aménagements, notamment par rapport aux handicaps physiques,
Ouais, on a fait un projet notamment en 2020 ou 2021, dans ces années-là, de création en fait d'un sentier accessible à tous les publics. Effectivement, alors sur le côté gardois du massif, hein, sur la montée depuis le Vigan sur le col du Minier, au niveau de la maison des Cévennes, du site de Peuchagut. En fait, ça partait d'un constat simple, c'est qu'en forêt de moyenne montagne, il y a beaucoup d'activités qui sont proposées, enfin de sites qui sont accessibles à du grand public plutôt un peu sportif, mais c'était compliqué de trouver des circuits qui soient relativement à plat et qui permettent quand même de découvrir différentes facettes de la forêt. Et là, le sentier en question, du coup, c'est une petite, c'est un petit parcours, mais avec un certain nombre de haltes qui ont été orientés vers la découverte sensorielle en fait. Et puis on arrive à la fin sur un belvédère, en bois qui domine en fait la vallée de l'Arre et puis les causses de l'autre côté.
Histoire de vous mettre en bouche. Et je me posais une question parce que bon, tu en as parlé, hein. Il y a le label forêt d'exception parce que il y a eu un gros travail de reboisement. Il y a une histoire à la forêt de l'Aigoual. Voilà, derrière il y a des humains. Il y a Georges Fabre en particulier. Qu'est-ce que ça fait quand on marche dans les pas de personnages historiques comme ça?
Je sais pas. En tout cas, ce que ça fait, c'est qu'on est les forestiers d'aujourd'hui. C'est qu'on est clairement les héritiers des forestiers, alors tels que Georges Fabre ou Émile Dedonnier, qui est moins connu, mais qui a fait le même boulot côté lauzérien, et surtout que toutes les équipes, à la fois des eaux et forêts, et puis aussi c'était la population locale, hein, qui a beaucoup participé. Pour les plantations à cette époque-là. Donc on est les héritiers de cette histoire-là, et nous on essaye de gérer au mieux maintenant avec les enjeux nouveaux, alors que ce soit le changement climatique que j'ai cité tout à l'heure, ou aussi les usages multiples qui se développent en forêt. On essaye de gérer au mieux ce patrimoine forestier et notamment de le proposer à la découverte du public, quoi.
Et tu dirais qu'aujourd'hui, c'est plutôt aisé de conserver ce label forêt d'exception, ou tu as parlé d'enjeux, de défis, où il y a des choses qui peuvent mettre un peu la pression?
En fait, le label forêt d'exception, donc il a été délivré une première fois en 2019 et sur un premier programme d'action sur 5 ans, donc on a duré un petit peu plus finalement. Et j'étais là ce mois de janvier à Paris pour proposer en fait un dossier de renouvellement de ce label forêt d'exception pour les 5 ans à venir. Et on a obtenu collectivement, parce que j'étais pas tout seul à cette réunion, un avis favorable du Comité national d'orientation. Donc pour l'instant, il n'y a pas encore la décision officielle, mais en tout cas, on a cet avis favorable parce que justement, le Comité national considère que la démarche va dans le bon sens, quoi. Donc c'est-à-dire qu'on est parti, je dirais pas tout seul, mais au début, on a essayé de s'insérer dans des projets qui étaient déjà menés de part et d'autre par, je sais pas, des communautés de communes, par exemple. Et ce qu'on essaye de faire avec le nouveau programme d'action, en fait, c'est d'avoir une démarche davantage intégrée, notamment en ayant des fiches d'action communes entre forêts d'exception et les chartes forestières de territoire, sachant qu'il y a une charte forestière de territoire côté lozérien et une autre côté gardois. Et que les actions, elles soient aussi davantage portées par les différents partenaires du territoire et pas seulement ou prioritairement par l'ONF. Donc en fait, le Comité national d'orientation, il voit que la démarche va dans le bon sens. Alors ouais, c'est clair qu'il y a des enjeux, il y a des défis, etc. Mais en fait, ce qui est jugé, c'est aussi la façon dont l'ONF et ses partenaires du territoire vont faire face à ces enjeux, en fait, finalement, travailler ensemble pour travailler à l'adaptation globalement du territoire par rapport au changement climatique, quoi, par exemple.
Et justement, là, on a abordé plusieurs fois le changement climatique. On sait qu'il a un impact sur les forêts. On peut l'observer maintenant un peu partout en France. Est-ce que tu peux nous dire un peu ce qui se passe sur l'Aigoual? Est-ce qu'il y a des essences qui sont plus touchées que d'autres? Est-ce qu'il y a des secteurs où tu observes, toi et les équipes de techniciens, techniciennes, plus de dépérissement qu'ailleurs?
Oui, alors sur l'Aigoual, il y a des choses classiques, on va dire, enfin, qui se retrouvent ailleurs en France, donc notamment les dépérissements d'épicéa, donc qui ne sont pas nouveaux. Enfin, ça fait 20 ou 30 ans déjà qu'il y a des épicéas qui dépérissent petit à petit sur l'Aigoual, parce qu'ils ont... essentiellement parce qu'ils n'ont pas assez d'eau en été. On a un massif qui est très très arrosé globalement sur l'ensemble de l'année. C'est un des endroits les plus pluvieux de France, mais en été, on manque d'eau. Il y a des sécheresses estivales, quoi, et donc il y a des espèces comme l'épicéa qui calent par rapport à ça, ça dépasse leurs conditions de vie, quoi. Et après ponctuellement on a remarqué là ces 2 dernières années des dépérissements ponctuels, pour l'instant vraiment juste un individu de par-ci par-là de sapin pectiné. C'est quand même relatif, enfin pour l'instant c'est pas grave, on va dire, mais ça pose question parce qu'il y a des ça interroge parce qu'il y a des secteurs, notamment dans les Pyrénées, orientales, enfin secteur de l'Ariège, le plateau de Sceaux par exemple, ou le Ventoux, donc dans des situations qui sont pas si éloignées que ça, où il y a des dépérissements vraiment importants chez le sapin, donc on peut se dire que demain, enfin ou dans 5 ans ou dans 10 ans, ce sera aussi le cas sur l'Aigoual. Et puis ce qu'on a observé aussi, donc notamment sur les étés, avec un gros déficit hydrique, donc ça a été le cas en 2022 et ça a été le cas aussi en 2025. L'année dernière, c'est que sur les versants sud, il y avait vraiment des feuillus en fait qui perdaient leurs feuilles dès le mois d'août. Alors ça, c'est clairement un signe de stress pour différentes espèces de feuillus sur les zones où il y a le moins de sol, les zones les plus rocheuses. Donc ça ne veut pas dire qu'ils meurent, mais ça veut dire qu'ils sont stressés et que si ce stress se reproduit dans le temps, ils risquent de mourir clairement, les arbres. Et puis, plus spectaculaire, c'est que sur les plateaux, sur les zones de plateau, parce que essentiellement en fait quand même la, la forêt domaniale de l'Aigoual, elle est présente au-dessus de 1000 mètres d'altitude. Et sur ces zones au-dessus de 1000 mètres d'altitude, avec essentiellement de la hêtraie sapinière, et ben, y avait des zones importantes, des surfaces importantes de hêtraie, qui, alors notamment en Crète aussi, hein, dans les situations où, pareil, les sols sont peu profonds et rocheux, et ben, tous les hêtres, là, ils avaient perdu leurs feuilles milieu du mois d'août, quoi. Et donc là, pareil, c'est le signe d'un stress important. Et bah, on peut se dire, sachant que bah, les trois espèces que je viens de vous citer, épicéa, sapin et hêtre, c'est les trois espèces principales de la forêt domaniale, c'est clairement quand même inquiétant, même si il y a plein d'incertitudes en fait sur le rythme et voilà, sur la vitesse de comment ça va se passer à l'avenir. Mais en tout cas, c'est des signes d'inquiétude.
Et alors, est-ce que les forestiers et forestières, ils travaillent déjà sur le sujet ? Qu'est-ce qu'ils font pour essayer d'adapter la forêt à ce changement climatique qui est de plus en plus pressant ?
Oui, bah, y a deux choses, en fait. Alors, d'une part, on essaye quand même au maximum de travailler avec la régénération naturelle, donc ce qui est semé naturellement par les arbres, donc les graines en fait de hêtres, de sapins qui vont germer naturellement. A priori, il y a quand même une certaine diversité génétique, notamment chez le hêtre, qui fait qu'on peut se dire qu'il est quand même bien adapté aux conditions locales, enfin relativement bien adapté aux conditions locales, et qu'en tout cas certains, notamment les hêtres qui sont aujourd'hui présents sur les versants sud, et ben, ils ont sans doute le réservoir génétique qui peut permettre d'être adapté à des situations plus sèches et plus sèche l'été. Donc ça, voilà, priorité à la régénération naturelle. Et après, dans des zones où il y a eu des dépérissements un peu plus importants sur des surfaces un peu plus importantes, alors pour l'instant c'est pas très important, c'est de l'ordre de un demi-hectare, un hectare, ce genre de surface, on a fait cette année, et puis l'année prochaine, et puis dans les années à venir, ce qu'on appelle des plantations d'enrichissement, c'est-à-dire que on va planter des arbres. Alors ça peut être des essences d'arbres, des espèces d'arbres ou des provenances d'arbres qui sont un petit peu plus méridionales, tout en restant dans des essences présentes sur le continent européen.
Et du coup, en enrichissement, vous plantez sous la forêt qui est déjà existante, c'est ça ?
Alors, en fait, ça fait des espèces de grandes clairières aujourd'hui, quoi. Et donc, on plante dans ces petites surfaces, dans ces trouées qui sont pas très grandes, donc avec quand même une protection par le peuplement qui est autour. L'idée, c'est de faire des plantations relativement mélangées avec des feuillus, des résineux, et en se disant que bah, sur les 4 ou 5 espèces qui sont plantées, on peut se dire qu'il y en a peut-être 2 ou 3 qui vont tenir dans le temps, quoi.
Merci beaucoup, Valère Marcedon. Est-ce que tu aurais un petit mot forestier à ajouter ? Ça peut être un souvenir.
Je pensais vous faire écouter le cri d'un habitant un peu bruyant de la forêt de la forêt de l'Aigoual, et très attachant, le pic noir.
D'accord.
Et alors, juste avant d'écouter le pic noir, pourquoi tu as voulu nous faire écouter ce chant ou ce cri, je ne sais pas comment on dit ?
Ah, mais parce que j'aime bien les oiseaux déjà. Je suis passionné d'oiseaux, et puis vraiment, il fait partie en fait dans les. Donc, c'est une espèce qui niche dans les hêtres, qui va creuser ses loges dans les hêtres. Donc, le hêtre est vraiment l'espèce d'arbre la plus présente sur le massif de l'Aigoual. Il contribue en fait à l'ambiance de la forêt, quoi. Quand on entend son cri, que vous allez entendre là juste après. Faut vous imaginer dans une hêtraie avec de la brume à l'automne, et là voilà, on est en forêt, quoi.
C'est le copain de travail, quoi.
Ouais, voilà.
Moi, j'aime bien l'appeler le fabricant des logements HLM de la forêt.
Et oui.
Parce qu'il fabrique tellement de loges qu'il permet aux chauves-souris, aux chouettes et à tout un paquet d'espèces de vivre en forêt grâce à lui.
Ouais, quel bailleur social.
Voilà, c'est notre bailleur social.
Alors, on écoute notre ami le pic noir. c'est l'heure de la pause musicale. Aymeric a une petite suggestion pour l'émission du jour.
Alors moi j'aime bien l'artiste Thomas Fersen, parce que Thomas Fersen, il a plein d'animaux dans ses chansons. Et dans Une chauve-souris, il y en a au moins un, mais il y a aussi un papillon. Alors tu choisis entre le papillon et la chauve-souris. Il y en a un des deux, le papillon, allez, choisis le papillon plutôt.
Désertant la caserne qui me gouverne, pour flâner dans la rue avec d'autres recrues dans nos manteaux d'hiver. Papillon vert, c'est au cœur de la vie civile, que nos soldes sont bus, avec en vue les bourgeois enchantés de se les argenter d'aller faire les boutiques. Papillon chic, les papillons, les papillons, les papillons. Les papillons, les papillons, les papillons. Les papillons, les papillons. Les papillons, les papillons, les papillons. Le diable nous emporte avec les feuilles mortes au grand bal des fantômes. Papillons jaunes, ou dans quelques manèges, sous les flocons de neige, angélique et mouillant. Papillon blanc, la cigarette au bec, je poursuis ma cueillette en regardant descendre un papillon de cendre dans l'anonymat d'une salle de cinéma, parmi l'autre poussière en habit de lumière. Les papillons, les papillons, les papillons. Les papillons, les papillons, les papillons. Les papillons, les papillons. Les papillons, les papillons, les papillons. Que mes 20 ans, je n'ai pas satué le temps, sans connaître la gloire d'être un seul soir un as de la voltige, matador de 20 piges, un coquelicot qui bouge. Papillon rouge, moi c'est grise d'alcool que je prends mon envol dans la rue vers minuit. Papillon gris, la lune les libère, et sous les réverbères, ce sont les noctambules qui déambulent. Les papillons, 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 les papillons. Parfois parmi le nombre, on croise une ombre qui fait parler ses yeux. Papillon bleu, mais on n'écoute rien, on pense à autre chose quand ses lèvres nous causent. Papillon rose, et parfois on la suit sous son grand parapluie, mais son prénom nous fuit. Papillon nuit, et quand le lendemain il reste sur la main l'ombre de son parfum. Tout un jardin, elle est déjà loin, elle n'est plus qu'un point, et c'est le désespoir. Papillon noir, car sur le guéridon griffonné au crayon, il reste un papillon. Adieu Léon. Les papillons, les papillons, les papillons. Les papillons, les papillons, les papillons. Les papillons, les papillons. Les papillons, les papillons, les papillons.
Plantes et animaux des bois.
Contact avec Dame Nature dès que l'aurore darde ses rayons d'argent à travers des écharpes de brume.
Il y a des hirondelles, des chauves-souris, il y a pas mal d'amphibiens.
Aymeric, Aymeric, de quoi tu vas nous parler aujourd'hui ?
Je vais vous parler d'un sujet que je ne maîtrise pas du tout parce que j'ai découvert un peu il y a quelques heures ou quelques, non, les 2 jours. Je suis sur le sujet, mais j'ai trouvé ça passionnant. Et c'est parti d'une simple balade en forêt ou même souvent au bord des routes, je m'aperçois, puis je m'arrête, puis je regarde. C'est ces fameux balais de sorcières que vous voyez dans certains arbres. C'est une sorte de... En fait, ça porte le nom de balai de sorcière. Ça n'a pas forcément une forme de balai, mais disons que c'est une sorte de mini bonsaï au sein d'un arbre. Une sorte de boule avec une croissance très réduite des feuilles. On trouve ça souvent sous les pins. Dans les forêts de pins, on en trouve assez souvent. Mais ça peut toucher la plupart des espèces, y compris des feuillus.
Qu'est-ce que c'est balai alors de sorcière?
Alors, il y a un point commun, je vous donnerai, il y a un point commun entre ces balais de sorcière et les maladies qui concernent l'olivier, mais qui ne forment pas de balais de sorcière. Le balai de sorcière est une excroissance, et la maladie qui concerne les oliviers d'Italie, là, qui est très célèbre parce qu'elle inquiète beaucoup les oléiculteurs, c'est deux cas de phytopathogènes. Phytopathogènes, c'est des maladies d'arbres. L'une est très grave, celle de l'olivier. Le balai de sorcière, c'est pas grave du tout, ça n'a pas très peu d'implications sur la croissance. On en a un peu s'il y en a 50, mais c'est très rare d'en avoir 50. Mais dans les deux cas, c'est des bactéries qui... Alors, je donnerai des exceptions parce que c'est pas toujours le cas pour les balais de sorcière, mais en tout cas, chez l'olivier et chez le pin, ou le sapin, ce sont des bactéries qui parasitent en fait l'arbre et qui sont transmises par des insectes. Ah. Voilà, donc alors revenons à qu'est-ce qu'un balai de sorcière. Donc je disais, c'est une sorte de ramification anarchique, une sorte de boule d'un arbre. C'est toujours spectaculaire. C'est considéré par les forestiers au niveau de la gestion comme un dendromicro-habitat, c'est-à-dire un habitat qui est capable d'accueillir un certain nombre d'espèces. Les oiseaux adorent s'y planquer. Et il y a également plein de petits insectes aussi qui s'y planquent là-dedans. Et c'est d'ailleurs eux, certains d'entre eux, qui vont être justement vecteurs de la bactérie qui va parasiter l'arbre et qui va créer cette sorte d'excroissance particulière en modifiant en fait la croissance de l'arbre.
Il y a certains insectes en particulier qui...
Oui, alors dans les deux cas, c'est souvent les cicadelles. Alors les cicadelles, qu'est-ce que c'est? Vous prenez une petite cigale, une cigale, ça ressemble à une cigale. C'est la famille des punaises. Et ça saute. Souvent, quand vous marchez dans l'herbe, vous avez plein de ce genre de petits trucs qui sautent. Ce n'est pas forcément des criquets ou des sauterelles, hein. C'est bien des cicadelles. Et elles ont mauvaise presse en ce moment parce qu'on s'est aperçu que la bactérie qui infeste un grand nombre de plantes passe par l'intermédiaire de cet insecte qui est suceur. En fait, l'insecte vient juste sucer un peu la plante, mais il va transmettre cette bactérie. Et c'est là où il y a le problème... notamment pour le cas de l'olivier, c'est ce qui ne nous concerne pas, et puisqu'on parle de forêt, l'olivier c'est une plante plutôt... Mais ça reste un arbre. Il y a des vrais, vrais problèmes sur l'olivier en Italie, et on ne sait pas jusqu'où ça va aller, cette maladie qui est transmise par cette cicade. Et donc il n'y a pas énormément de solutions, mais je reviens à mes balais de sorcière. Et je vais vous donner des petits noms parce que j'aime bien vous donner des petits noms parce que c'est à coucher dehors. Du coup, ces bactéries, elles ont des noms, on a étudié la diversité et des bactéries, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas. Nous, au parc, on n'a jamais étudié ça, on n'a pas de gens compétents. Et c'est ça que je trouve intéressant, c'est que ces balais de sorcières, pour chaque espèce d'arbre qui présente un balai de sorcière, il peut y avoir une bactérie, parfois c'est même un champignon aussi, qui affecte et qui est responsable du balai de sorcière. Donc dans le cas du sapin, si vous voyez un balai de sorcière du sapin, vous pouvez affirmer presque à coup sûr que c'est Melampsorella caryophylla serum.
D'accord.
Vous dormirez mieux.
On répète.
Et ce qui est amusant, c'est chez champignons, c'est... Là, pour le coup, excusez-moi, je saute de la bactérie au champignon. Dans le cas du sapin, c'est un champignon qui crée le balai de sorcière. Chez le pin, c'est une bactérie. Bon, mais peu importe. On va dire que c'est des petits organismes invisibles à l'œil nu. Et qu'on voit pas, mais qui sont responsables d'une excroissance qui est parfois assez jolie. Et donc pour revenir à celle du sapin, c'est d'autant plus compliqué. Il y a beaucoup de champignons qui fonctionnent comme ça. C'est que le champignon a un premier hôte qui n'est pas un arbre, mais qui est une plante qu'on appelle les stellaires ou les cérestes. Et donc, si vous avez beaucoup de stellaires et de cerès dans votre forêt, ben le champignon se développe d'abord sur ce premier hôte. Et ensuite, il va avoir une deuxième vie, si on veut, qui est de s'introduire par des petites fissures ou par temps humide à l'intérieur de l'arbre et produire ce petit balai de sorcière. Ça ne va pas être grave pour la forêt, mais moi, je suis toujours fasciné par la complexité du vivant. Et là, en l'occurrence, chez ce cas de champignons, on avait ça aussi, c'était très connu à l'époque pour les maladies qui concernaient le blé. À un moment donné, il y avait une plante qui s'appelait l'épine vinette, qui était connue pour être une plante qui accueillait le premier stade d'un champignon qui s'attaquait aux céréales. Mmh. Et il y a eu branle-bas de combat, je pense que c'était au 19e siècle, pour détruire le maximum d'épines vinettes pour éviter que ce champignon ait une possibilité de s'implanter autour des cultures de blé, quoi. Voilà l'idée. Alors, il faut pas supprimer tous les cerès et les stellaires de la forêt pour éviter d'avoir des balais de sorcières, parce que les balais de sorcières, c'est très sympa et ça nuit pas du tout à la
gestion forestière. L'arbre se porte bien.
Une mauvaise idée. De la même manière qu'il y avait des idées, je reviens à mon histoire d'olivier, puisque c'est un peu les mêmes idées, l'olivier qui est attaqué par une bactérie dont le vecteur est une petite cicadelle. Il n'y a pas de solution miracle. Alors quand on lit les articles, on entend le mot confinement, on entend le mot éradication. Ça va vous rappeler quelque chose qu'on a vécu en 2020 et lutte biologique, etc. Et en fait, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de solution miracle pour vaincre ça, si ce n'est la lutte contre le réchauffement climatique paraît être le plus simple, mais c'est dans les mots, mais dans la réalité, c'est très difficile. Et ce sont des phénomènes qu'on maîtrise assez mal, puisqu'ils sont liés aussi à l'augmentation moyenne des températures. Les périodes froides et humides sont moins favorables à la progression de ce genre de maladie.
Et est-ce qu'on peut dire, par exemple, quand on gère une forêt, s'il y a des blessures aux arbres, ça fait des portes d'entrée pour...
Toujours, évidemment, après des grandes périodes d'orage avec des grosses grêles, là, on a des cicatrices sur les arbres. C'est bien souvent après ce genre de phénomène qu'on peut avoir des maladies assez fortes. Okay. Mais voilà, la bonne santé, le fait que les sols soient préservés aussi, et avec une bonne ressource en eau, font que les arbres résistent mieux à des phénomènes climatiques comme cela. C'est un phénomène tout à fait complexe. Voilà, je suis parti des balais de sorcières pour disparaître là-dedans. Et j'ai même pas sorti les légendes sur les balais de sorcières, mais il n'y a pas forcément de légende.
Ah bon ?
Non, mais enfin, vous pouvez faire ce que vous voulez avec votre balai de sorcières. Essayez de décoller avec. Toujours des mauvaises idées, mais dans le cas de... J'aime bien m'égarer vers l'olivier, mais dans le cas de l'olivier, puisque ça a vraiment concerné, c'est presque un problème national en Italie, c'est la région des Pouilles qui a été affectée, et ils ont réfléchi à comment on pourrait éliminer le vecteur, donc la petite cicadelle qui saute dans les prairies, qui est ce qu'on appelle un cercope des prés. Et donc ils ont imaginé introduire une punaise qui vient d'Amérique du Nord pour s'occuper de ça. Bref, on commence à rentrer dans des phénomènes qu'on maîtrise peu du tout, parce qu'en l'occurrence, cette punaise qui viendrait d'Amérique du Nord, elle mange tout, enfin, elle mange plein d'autres insectes, et dont des autochtones, et ce serait problématique. Voilà, donc, pas de solution. On observe, et on regarde, on évolue. Voilà. Il y a après des problèmes de vaccination, peut-être, possible, cas, d'introduire des bactéries moins virulentes, comme on a eu le cas pour le chancre du châtaignier, ça marche. Mais tout ça, c'est complexe. Vous voyez, c'est pas très clair, c'est parce qu'on touche au tout petit, et moi, ça me fascine. Voilà, c'était le balai de sorcière m'a permis d'ouvrir ça.
Merci beaucoup, Aymeric.
À bientôt.
Eh bien, on vous dit à bientôt pour une nouvelle émission de Palabre en forêt qu'on retrouve le mois prochain.
Sur Radio Barthès 107 FM.
Salut.
À bientôt.
Palabre en forêt.
L'émission qui va à la rencontre des actrices
et des acteurs de nos forêts cévenoles,
du Gard et de la Lozère.
avec une rubrique découverte des richesses sauvages des forêts sévenoles et parfois des forêts francophones du monde.
Sur Radio Bartas,
107.